Les femmes pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré. Alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas envie, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement.
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Assalamu alaikum, shalom, bonjour, vous êtes les bienvenus au Club La Presse de ce jeudi 7 décembre 2023. Vous nous écoutez sur Canal FM, sur Radio Lumière à Anéro, sur Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, sur Radio Centrale FM à Sokodé, sur Radio Daoul à Bassa, sur Radio Sama FM à Baganiamtougou ou encore sur Radio Courtoisie à Dapaon. Et hors du Togo, un peu partout en Afrique, dans le monde entier, par le biais des radios numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio. Il y a même l'application Canal FM. Il y a aussi et surtout la chaîne YouTube qui vous permet de nous écouter, de nous regarder. Merci à tous ces médias partenaires. Merci également aux techniciens qui réalisent l'émission et la mettent en onde. Victor Gbekoku, Michel Tomega et Jérôme Dakoucha. Aujourd'hui, de quoi débattons-nous? Un peu de l'olympisme avec le Togo qui abrite des compétitions de la zone 3 du Conseil supérieur du sport en Afrique. Et puis également l'environnement qui se trouve au centre des priorités depuis Lomé ici jusqu'à Dubaï où se tient la conférence des Nations Unies pour l'environnement. Et le gros morceau du jour, c'est les pré-échauffements que les médias observent dans divers camps politiques en attendant les élections régionales et législatives. Et vous savez déjà qu'après la pause de 12 heures, vous pourrez entrer en ligne et co-animer avec nous les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. À partir de 12 heures, quelques minutes, vous posez des questions, vous émettez vos commentaires sur les sujets que j'ai annoncé et dont nous allons débattre. C'est également une tradition que nous commencions l'émission par une pensée du jour. Et aujourd'hui, nous nous inspirons de la COP 28 qui se tient depuis plus d'une semaine à Dubaï avec tout ce que le Togo se trouve représenté, le chef de l'État, les membres du gouvernement, des groupes organisés, des ONG et toute la planète Terre qui se met au chevet de l'environnement à Dubaï. Et cela a inspiré quelqu'un qui a écrit ceci. La COP, cet endroit où des mecs viennent en jet privé expliquer aux gens qu'ils doivent faire du vélo ou aller à pied. Ça nous a beaucoup amusé. Nous prenons ça comme pensée du jour. La COP, cet endroit où des mecs viennent en jet privé expliquer aux gens qu'ils doivent faire du vélo ou aller à pied. Michel Tchadja, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à tous nos amis derrière la belle vitre.
Eh bien, cette phrase-là, je l'ai trouvée dans un groupe, ça m'a amusé un peu, ça doit également un peu t'amuser. Quand quelqu'un dit que la COP, notamment à Dubaï, c'est cet endroit où les gens viennent avec leur jet privé, avec leurs avions privés, et maintenant ils nous expliquent à nous autres de faire du vélo ou d'aller à pied pour préserver l'environnement.
Oui, je pense que c'est bien caricaturé, cette idée-là. Comme vous voyez, le parterre des personnalités qui s'y rendent généralement à ce genre d'occasion, vous allez comprendre aisément l'idée l'idée qui est véhiculée dans ce sens-là. Ils ont oublié d'ajouter ceux qui ont déjà même pollué, assez pollué, oui. Et qui demandent aux autres de ne rien faire dans ce sens. Oui. Vous voyez, donc, je pense que c'est le plus souvent un rendez-vous d'hypocrisie. Un rendez-vous où il n'y a pas l'unisson. Un rendez-vous où les gens viennent avec des idées juste pour essayer de se faire voir, des idées qui, ma foi, n'arrangent pas forcément leur vis-à-vis. Mm-hmm. Vous voyez? Parce que les gens se sont organisés depuis des années à polluer notre planète. C'est vrai qu'aujourd'hui, les conséquences sont partagées. Mais nous qui n'avons rien fait jusqu'à ce jour, on nous demande d'utiliser les véhicules électriques pour éviter de polluer. Alors que quand on prend la proportion de pollution par rapport aux différentes aux différents continents, l'Afrique par exemple ne fait rien pour
rien. Au plus 3% de la pollution mondiale.
Voilà, actuellement nous on a le droit d'aller d'utiliser les énergies en tout cas quelles qu'elles soient, parce que nous n'avons pas encore participé en tout cas à une hauteur importante à la pollution de la planète, et on nous impose tout ça là. Et bon, devant cela, peut-être saluons le courage de certains chefs d'État qui ont leur vision et qui l'expriment clairement, comme le cas de notre président de la République, qui a toujours eu à servir à ses interlocuteurs l'idée propre au Togo, ce qu'ils veulent faire en matière des énergies au Togo. Et nous sommes heureux de constater que ça fait école ailleurs. Il y a des gens qui comprennent son idée, qui s'alignent. Il y a d'autres pays qui s'alignent sur l'idée du Togo. Je trouve que c'est ce qu'il faut à un moment donné. Avoir le courage face à ces puissants qui viennent déjà avec des idées préconçues. Il faut les dégonfler en leur disant que non, c'est vrai, vous dites ceci. Voilà ce que nous voulons faire. Étant entendu que tous les États sont souverains.
Merci. La COP, cet endroit où des mecs viennent en jet privé, nous expliquer à nous que nous devons aller à vélo ou aller à pied. Et quand on considère que Dubaï, qui accueille la COP, c'est un pays désertique, mais les dizaines de milliers de gens qui se trouvent là-bas, des chefs d'État, les sommités de l'ONU, les princes, les PDG de grandes sociétés, Ils logent dans des... Non seulement ils sont allés là-bas en jet privé, mais ils logent dans de grands hôtels 5 étoiles, les chambres hyper climatisées. Ils circulent avec les plus grosses voitures.
Ouais.
Le président même de la COP de Dubaï, c'est le ministre en charge des hydrocarbures des Émirats Arabes Unis. C'est les gens-là que tu caricatures si bien, les gros pollueurs, qui se réunissent entre eux et qui nous disent maintenant, nous, de nous priver de ce qui pourrait continuer à dégrader davantage l'environnement. Mais là où ils ont raison, Michel, c'est que nous, les pays africains, dont le Togo, nous polluons très peu. Seulement, c'est nous qui récoltons une bonne partie des conséquences du dérèglement climatique et également de le réchauffement de la planète Terre. Donc, nous polluons peu. Mais nous récoltons beaucoup les conséquences de cette pollution.
Pourquoi ils ont raison alors, selon toi? En fait, c'est à eux de faire l'effort, c'est pas nous. Ils ont raison en quoi? C'est à eux de faire l'effort, les gros pollueurs, c'est à eux.
Disons, le constat établi...
Nous, on ne fait rien. Mais jusque-là, nous ne faisons pas grand-chose dans ce sens-là. C'est à eux de faire de gros efforts pour réduire les activités de leur entreprise, de leur société qui continue à polluer la planète. Sinon, nous autres, ce que tu dis qui n'est pas faux, c'est que nous récoltons beaucoup de conséquences de cette pollution-là, d'autant plus que nous n'avons pas les moyens de contrer les effets. Mm-hmm. Et donc, peut-être nous, c'est de leur dire que ce que vous avez fait jusqu'à présent et qui nous cause des torts, finançons-nous et pour qu'on essaie de nous organiser davantage.
Il faut qu'ils nous aident à réparer.
Parce que depuis plus de 20
les
ans.
Les conséquences de leurs dégâts.
Voilà, depuis plus de 20 ans, ils ont parlé entre-temps des fonds verts. Non, oui, c'était les fonds verts.
Oui, oui.
Mais ça n'a jamais été financé. Après, on nous a parlé des fonds bleus, c'est-à-dire au niveau de la sécurité maritime. Et jusqu'à présent, rien. Ce n'est que des discours. Moi, je pense que quand ils sont retrouvés à Dubaï, c'est le moment pour beaucoup de faire de grosses affaires, hein, de faire leurs affaires. Ce n'est pas, ils ont, beaucoup se cachent derrière la COP. Là,
merci puis, Michel, tu le dis si bien, mais le Togo est fortement représenté à Dubaï. Le chef de l'État s'y trouve. Le journal Canal D qui nous donne aujourd'hui les échos du Togo à Dubaï. Si le chef de l'État y est, c'est que des ministres, dont celui de l'environnement, s'y trouvent également, de grosses sociétés d'ici et d'ailleurs, mais également des ONG. Et ça, c'est la Nouvelle Tribune qui nous en parle. L'ONG Togo Environnement Propre de Madame Sonia Neme Nyasingbe se trouve également à Dubaï, où elle présente les actions de son ONG, de son ONG notamment, en matière d'assainissement de la ville de Lomé et de ses environs. Il y a également des communes qui se trouvent à Dubaï, dont les communes Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7. Ces trois communes qui viennent de signer une convention avec le groupe AXA Climate, ce groupe qui est porteur du projet d'assurance contre les inondations. Donc, ces trois communes, à savoir Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7, attendent de la convention qu'elles viennent de signer de mettre à l'abri d'éventuelles inondations leur population. Voilà ce que nous pouvons dire sur la COP 2023 et ce qui s'y fait, les gens qui y sont et ce qu'ils disent et la réalité qui est têtue. Si je disais tantôt que les trois communes, Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7, ont signé une convention à Dubaï avec le groupe AXA Climate, il y a une autre convention signée il y a quelques semaines, quelques jours, mais qui continue à faire beaucoup de vagues. Il s'agit de la convention collective des gens de mer. La convention a été signée en octobre dernier et dans sa parution d'hier, le confrère La Manchette en parlait encore. Convention collective qui a été signée en octobre dernier. Or, deux syndicats au moins, des gens de mer, continuent à se montrer furieux contre cette convention, contre laquelle ces syndicats ont de sérieuses réserves. Vous suivez cette information déjà dans les journaux, sur les radios, mais le sujet nous intéresse aujourd'hui et nous avons invité pour en parler le sieur Alpha Poudéman. Bonjour, monsieur Poudéman.
Bonjour, Canal FM.
Eh bien, vous-même, vous êtes de profession mécanicien maritime, mécanicien marin, n'est-ce pas?
Oui.
Et vous êtes militant d'un syndicat, notamment le syndicat des gens de mer professionnels du Togo, dont vous êtes le chargé aux affaires extérieures, n'est-ce pas, M. Poudéman?
C'est ça, M. Sass.
Très bien, vous êtes le bienvenu à notre plateau. C'est pour nous aider à comprendre cette convention des gens de mer, et surtout les réserves, pour ne pas dire les critiques que vous formulez contre cette convention. Dites-nous, M. Poudéman, d'abord, cette convention qui a été signée déjà sous l'aval du ministre en charge de l'économie maritime, M. Edem Kokou Tengue, vous, M. Poudéman, votre syndicat et l'autre syndicat, quelle est votre appréciation de cette convention?
Merci beaucoup, Canal FM, pour les efforts que vous fournissez chaque jour pour aider et la population a éclairci certaines situations un peu floues dans notre société. Effectivement, la convention des gens de mer qui a été présentée le 23 octobre dernier par Monsieur le ministre du secteur maritime est contestée par rapport à sa grille salariale. Le contenu de la convention n'a pas un souci. Mais c'est au niveau de la grille salariale que nous, syndicat SGMP Togo et Coma Togo, l'association Coma Togo, contestons la grille salariale. C'est la grille, au point de la grille salariale qui est notre souci actuellement.
Effectivement, d'après ce que je lis dans les journaux, sur les médias, c'est votre syndicat, le syndicat des gens de mer professionnels du Togo, SGMP Togo, et le corps des marins marchands du Togo, Coma Togo. C'est vous qui formulez des réserves contre cette convention, et vous trouvez que les grilles salariales contenues dans cette convention ne vous satisfont pas.
Oui, effectivement, si monsieur le ministre arrive à imposer cette grille salariale aux marins togolais, il ne nuit pas seulement les marins togolais, mais il nuit l'État togolais, parce que tout armateur qui arrivera sur les eaux togolaises se basera de cette grille salariale pour travailler. Et ainsi, on fera du mal aux marins togolais, car cette grille salariale ne répond même pas à un quart. Je dis bien là, un quart de la convention du travail maritime que l'État togolais même a signé sur le plan international. Donc, sincèrement, cette grille salariale ne profite à personne. Il ne profite ni à l'État togolais, ni à nous les marins qui sommes des marins navigants. Parce qu'aujourd'hui, on suppose que Bolouda, ou qui est en général la capitainerie du port du Togo, et c'est lui qui regroupe tous les marins togolais. Non, on a les marins, eux, c'est les marins côtiers. Mais nous, nous sommes du long cours. Donc, c'est nous qui sortons. Normalement, cette convention se base sur ces gens-là, ces marins, ces gens de mer qui sortent hors du pays.
Oui.
Donc, la grille salariale et la convention n'est pas la convention togolaise, mais elle sera envoyée vers les organisations internationales. Donc, viendra maintenant les opérateurs, les armateurs, ce que nous appelons les armateurs qui ont des navires. Donc, pour que cette grille salariale que M. le ministre nous impose aujourd'hui, parce que nous contestons cette grille salariale suite à ce document que j'ai sous la main, qui est le code de la marine marchande.
Et donc, vous trouvez justement que les grilles salariales qui sont fixées dans la convention collective des gens de mer, ces grilles sont très en deçà par rapport aux normes recommandées par la convention internationale.
Oui, oui, mais M. Sars, parce que cette grille, actuellement, elle ne représente même pas les 1K, comme je viens de le dire, puisque notre pays même a signé, mais a ratifié une convention qui est la convention du travail maritime. Donc, pourquoi ne pas se baser de cette convention que le Togo a signée?
Oui. Mais ok, nous notons votre première réserve. Mais est-ce que le ministre Tingué s'est levé un jour comme ça pour imposer cette convention collective? Est-ce que la dite convention n'a pas été le fruit d'un travail que le ministre a entamé? Je crois savoir que vous-même, vos syndicats ont été associés à l'élaboration du projet de convention au début, n'est-ce pas?
Justement, c'est là même l'inquiétude que nous avions et la réserve aussi que nous portons. Parce que au début des travaux préparatoires, dans le préambule même de cette convention, vous allez voir que le SGMP Togo s'y trouve. Et nous étions les premiers à être aux travaux. Mais à notre grande surprise, nous n'avions pas reçu de le 6, 7, 8 décembre de l'année dernière, nous étions au cabinet pour finaliser, où nous avions fait des propositions de salaire par rapport aux conventions et par rapport aux grilles salariales qu'a proposé l'Organisation internationale maritime. Mais nos armateurs et nos sociétés de placement n'ont même pas jeté un coup d'œil, parce que eux ils poursuivaient que leur intérêt. Donc c'est là qui a été le problème. Nous avions sur soi ce jour-là, attendant peut-être être appelé de nouveau pour revoir au moins de quelle façon nous pouvions ajuster cette grille salariale.
Donc déjà depuis décembre 2022, vous avez soumis des propositions qui n'ont pas reçu l'adhésion des grands armateurs, et c'est à partir de ce bas que vous avez sursis à votre participation. Alors, c'était juste un sursis ou bien vous avez décidé de boycotter les travaux à partir de ce moment-là?
Non, nous avions suivi les travaux jusqu'à la fin. Je dis le 6, 7, 8, nous nous sommes retrouvés au cabinet du ministère pour signer ou bien adopter la grille salariale dont nous n'étions pas d'accord, de celle qui est actuellement dans la convention.
Oui.
Et nous leur avions proposé des grilles salariales conformément aux normes internationales que on n'a même pas essayé de jeter un coup d'œil, parce que nous sommes en catégorie de navigation. Et donc, nous avions proposé les salaires par rapport à ces catégories. Mm-hmm. Mais seulement, on s'attendait peut-être que si le document allait vers M. le ministre, il appellerait les acteurs qui ont commencé. Mais nous n'avions pas eu de convocation. Nous n'avions même pas eu de coup de téléphone. Comme quoi, on veut reprendre et vous signer la convention.
Donc, les propositions salariales que vous avez soumises n'ont pas été étudiées. Et vous avez découvert comme ça, par surprise, que la convention a été finalisée et signée sans prendre en compte vos propositions salariales.
Justement, je dis bien que nous avions suivi les travaux du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Donc, notre seul souci, c'était au niveau de la grille salariale, oui, qui devait être adoptée le 6, 7, 8 décembre passé,
oui,
que de 2022, auquel nous avions fait des propositions de salaire. Oui. Donc, comme on ne s'entendait pas, le conseil du ministre et l'inspecteur du travail qui était là ce jour ont sursoit les travaux. Donc, pour nous, il y aurait une reconvocation pour voir dans quel domaine, dans quelle mesure nous allions ajuster cette grille salariale. Mais à notre surprise, c'est le 23, nous voyons une grille.
Le 3 octobre.
Ouais,
donc, ça veut dire que vos deux syndicats, vous n'étiez pas à la signature de cette convention dont nous parlons actuellement.
Nous n'avions pas été convoqués, nous n'avions même pas eu de coup d'appel. C'est ça qui nous surprend jusqu'à ce jour.
Alors, depuis que cette convention a été signée, est-ce que vous êtes retourné voir le ministre pour lui formuler vos réserves?
Quand nous avions arrêté les travaux le 7 et le 8, nous avions
décembre 2022,
oui, nous avions demandé une audience.
Je suis
un des éléments qui était ce jour-là là-bas. Dès que le ministre nous a appelé, nous sommes rentrés. Je le dis sur ce plateau, mm-hmm, et je prends ma responsabilité parce qu'il nous a ressorti comme quoi dit à Woku de s'occuper de ses affaires. Nous étions venus pour un objectif, pour lui expliquer nos soucis. Mais nous n'avions pas fait deux minutes avec monsieur le ministre. C'est ça qui nous a surpris. Mais ok, nous on attendait, comme je viens de le dire, d'être reconvoqué. On n'a jamais été reconvoqué, mais malheureusement, c'est que nous avions vu une convention qui a été brandie par monsieur le ministre,
oui,
signée. Mais signée par qui?
Mais justement, nous apprenons qu'il y a quand même des syndicats qui ont signé la fameuse convention, monsieur Poudéma.
Voilà, il faut être franc. Ils ont fondé, puisque nous étions réticents, mais et qu'on maintient forcément de sortir cette convention, mm-hmm, on a fondé, on a créé des syndicats. Qui est, à la veille.
Qui est ce fameux on qui a créé, qui aurait créé.
Vous savez, j'évite d'appeler le nom des gens parce que tout ce que nous disions, nous avions les preuves. Mm-hmm. Ces syndicats qui ont signé cette convention, si vous allez sur leur espicé, ne serait-ce qu'ils n'ont même pas encore fait un an et ils n'ont pas assisté aux travaux. Mais comme on tient à signer la convention, donc on a créé ces syndicats pour pouvoir signer les conventions comme nous étions réticents. Donc, ce qui signifierait que c'est les hommes de mer eux-mêmes qui ont signé.
Donc, on aurait créé des syndicats pour vous contourner, vous,
nous,
et signer la convention. Bon, maintenant que cette convention est signée quand même, apparemment, avec l'aval de monsieur le ministre en charge de l'économie maritime, qu'est-ce que vous demandez au ministre ou bien au-delà du ministre au gouvernement?
Oui, c'est ce que je viens de dire, justement, que si on impose cette grille salariale aujourd'hui à notre pays, on ne l'impose pas à nous, puisque moi personnellement qui suis ici, je ne signe pas mes contrats avec l'État togolais. Je signe avec des sociétés étrangères. Donc, cette convention reflète comme un contrat de notre pays. Et pourquoi nous contestons cette convention ou bien la grille salariale? Parce que vous constaterez que sur les navires, la plupart des navires aujourd'hui, vous allez voir que des Philippins. Pourquoi? C'est parce que leur grille salariale est telle basse que tellement que les armateurs se sont
allés recruter là-bas.
Mais pourquoi on veut être... Aujourd'hui, les Philippins sur les navires se plaignent. Mais ils ne peuvent plus rien parce que c'est leur pays qui a brandi cette convention.
Donc c'est ce que vous disiez, cette convention qui vient d'être signée risque de porter préjudice non seulement aux marins togolais, même à l'État togolais.
Même à l'État togolais, dans son ensemble.
Attention,
parce que nous, au lendemain de la signature de cette convention, nous avions envoyé des lettres
à
Madame la Première Ministre et Monsieur le Ministre conseiller à la Présidence pour la mère.
Monsieur Baba, Baba. Stanislas.
Donc nous avions fait deux lettres pour exprimer notre mécontentement. Donc c'est suite à cela que nous avions dit ah, nous aurions d'autres forces qui puissent nous aider à pouvoir exprimer haut et notre mécontentement parce que il y aurait des oreilles qui sûrement vont entendre ce que nous sommes en train de dire et tirer l'attention de monsieur le ministre comme quoi et vraiment cette grille salariale va nous créer des problèmes.
Alors justement, est-ce que le ministre Baba ou bien la Premier ministre vous aurez déjà répondu?
Pour l'instant non.
Pas encore.
Pour l'instant non.
Merci. Alors en dehors de cette question salariale que vous tenez quand même à défendre, auriez-vous d'autres préoccupations que vous voudrez bien souligner à ce plateau pour l'intérêt des gens de mer?
Oui, puisque à son arrivée, nous l'avions approché.
Le ministre
Nguyen. Monsieur le ministre, nous l'avions approché et nous a fait des promesses. Parce qu'un premier temps, nous l'avions relevé comme quoi il y a des navires qui battent pavillon togolais, mais on ne trouve pas de marins togolais là-dessus. Or, c'est une grande erreur. Parce que quand un navire arrive dans un pays pour avoir le pavillon de ce pays, c'est qu'il a pris, c'est tout comme un étranger qui vient demander la nationalité. Et quand c'est un opérateur, il est obligé de s'installer au pays et de travailler avec les autochtones. Mais malheureusement, la plupart des navires qui ont le pavillon togolais n'ont pas de marins togolais à bord. Alors, dans les autres pays, quand un navire arrive, c'est une obligation d'avoir 50 à 60% de l'équipage de bord qui soit togolais. Mais chez nous ici, les navires viennent, les armateurs viennent, on leur signe des contrats, et on leur donne le pavillon sans qu'on puisse intégrer cette loi là-dedans. Donc, monsieur le ministre, lorsque nous l'avions approché, il nous a dit, je répète exactement ce qu'il nous a dit, je mettrai un mécanisme en place pour l'enroulement des marins togolais sur les navires battant pavillon togolais. Donc, au-delà de ça, monsieur le ministre nous a promis de... Puisque nous avions des difficultés d'obtention de nos livrets, parce que tu ne peux pas te dire que tu es chauffeur sans le permis. Et on reconnaît le marin que par le livret maritime professionnel.
Oui.
On reconnaît que le marin que par son livret maritime professionnel. Donc, nous l'avions souligné aussi les soucis que nous avions, les exigences que la direction maritime imposait à l'époque pour obtenir ces livrets. Il nous a promis de voir, même nous a dit de penser que c'est déjà fait. Notre pays a eu cette occasion que l'Organisation internationale maritime a donné une dérogation à l'État togolais, à l'administration maritime togolaise, de pouvoir délivrer les certificats STCW. Et aujourd'hui, le prix est exorbitant par rapport à ce que nous vivons. Nous avions souligné ce problème. Monsieur le ministre nous a tout accordé. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand nous nous approchons, nous qui étions les premiers éléments accepté par le monsieur le ministre, nous rejette aujourd'hui. Et c'est là où nous ne comprenons absolument rien. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et on voudrait voir justement quel est le nœud du problème. Est-ce que là, derrière, il n'y a pas des manipulateurs? Effectivement, notre secteur a été trop camouflé pendant longtemps par certains individus, ou excusez-moi l'expression, par certaines personnes, certaines autorités qui ne veulent pas faire savoir à l'État le gain qu'ils ont dans ce domaine. On fait croire que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais nous sommes sur le terrain, nous constatons des choses.
Merci beaucoup Alpha Poudema, en charge des affaires extérieures du syndicat des gens de mer professionnels du Togo, lequel syndicat avec le corps des marins marchands du Togo, qui ne sont pas d'accord avec la convention collective des gens de mer qui vient d'être signée en octobre dernier. Leur principale réserve, c'est la grille salariale contenu dans cette convention, cette grille qui n'arrange ni les marins du Togo, ni l'État même togolais, parce que l'État est trop en deçà de ce que la convention internationale a déterminé. Et en plus de ça, M. Poudema, au nom de ces syndicats, demande que le Togo fasse en sorte que les navires battant pavillon togolais recrutent au moins 50 à 60% de leur personnel marin au Togo. Et ensuite, ces syndicats qui sollicitent qu'il leur soit délivré dans les meilleurs délais le livret du marin qui est un peu le permis de conduire ou bien la carte d'identité du travailleur marin. Merci pour demander d'être le porte-parole de vos préoccupations, avec l'espoir que ce que vous dites ici sera entendu quelque part dans des oreilles bienveillantes. Michel Tchadja avec nous en temps, nous l'attendions, il nous a rejoint. Elon Kossi Atichogwe, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
Merci, c'est vrai que vous venez de découvrir M. Poudema avec les préoccupations des marins qu'il a exposées. Je ne sais pas si vous avez un avis sur tout cela. Oui Michel.
Non, nous pensions que depuis qu'on a nommé un ministre spécialement chargé
de l'économie maritime,
on s'est dit que ça veut dire qu'on veut prendre à bras le corps les problèmes liés dans ce secteur-là et que les solutions idoines seront trouvées aux problèmes récurrents dans ce secteur-là. Mais là, à écouter M. Alpha, je suis surpris que, bon, il y a beaucoup de choses encore à faire et que si entre le ministre et les syndicalistes, il y a encore des choses qui ne vont pas. Là, ce n'est pas du tout bien. Je pense que à partir du moment où ils ont écrit au Premier ministre et puis
au ministre conseiller à la présidence des affaires maritimes.
Oui, je pense que le problème est tellement sérieux que sûrement que des solutions seront trouvées. Sinon, dans tout ce qu'il a dit, je relève le problème des bateaux battant pavillon togolais, oui. Parce que c'est un problème récurrent. Je me demandais comment est-ce que on peut arrêter le plus souvent des bateaux battant pavillon togolais, peut-être transformant des stupéfiants, des produits illicites et tout. Et que, bon, qui a donné ces pavillons-là? Bon, ça, on se posait des questions.
Oui.
Et ça dit que on met le nom du Togo quelque part où, bon, on n'arrive pas à comprendre. Mais, alors qu'il vient de dire que, normalement, selon les tests, les conventions internationales, lorsque un bateau bat pavillon d'un pays, l'obligation est faite à ce navire de recruter
50-60% de son personnel dans le pays.
Et comme il le dit, parfois on arrête des bateaux comme ça, tous sont des Yovo.
Il y a même un demi-togolais sur le...
Bon, comment est-ce que... Quels sont ceux qui donnent ces pavillons-là à ces bateaux et que, à ces navires et que, bon, tous ces problèmes-là, en principe, ils sont en train de relever un certain nombre de choses que le commun des Togolais vraiment ne comprend pas. Peut-être que l'homme peut-être a des solutions à ça.
Heureusement.
Oui, justement.
En réalité, je crois que le problème qui se pose au niveau du corps marin, c'est un vieux problème. Vous savez, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Et comme Michel l'a dit, on a cru qu'avec la nomination d'un ministre chargé spécialement de ce secteur va permettre de trouver des solutions très rapidement. Et c'est ce que on se disait. Bon, maintenant que le ministre Tengue a été nommé, il faut dire que c'est une autorité qui maîtrise bien le secteur maritime. Pour y avoir fait une société maritime en tant que directeur général pendant de longues années, ou même à des postes beaucoup des postes secondaires que celui du poste de DG, donc dans la même boîte. Donc on se disait que, bon, tiens, voilà quelqu'un qui maîtrise en fait l'environnement maritime, qui vient quand même donner de l'espoir à ce secteur. Mais les premiers contacts ont été quand même rassurants sur le plan de la plateforme portuaire, de la logistique, etc., puisqu'aujourd'hui le Togo présente le port, l'un des ports les plus modernes et en même temps le premier port de la sous-région, quatrième au plan africain. Mais on se rend compte que le problème des acteurs même n'a pas été réglé ou continue de se poser avec acuité. Donc aujourd'hui, à l'écouter le représentant ou le chargé des relations extérieures du syndicat des marins, on se rend compte que vraiment on a du chemin à faire. Et là, je suis quand même surpris de l'évolution des choses. Et je voudrais bien exhorter ou prier Monsieur le ministre de l'économie maritime, qui est un homme de dialogue, de consensus, à pouvoir trouver une solution, de pouvoir trouver une solution ensemble avec les gens de mer pour que ce problème soit définitivement derrière nous. Et je voudrais aussi demander, poser une question aux représentants du syndicat pour savoir exactement, lorsque la convention collective suivait sa procédure de finalisation, est-ce qu'ils ont été associés? Quelles sont les observations qu'ils ont faites sur la mouture avant signature?
Je comprends d'où tu viens d'arriver.
Voilà.
Il a dit qu'au début, ils étaient associés, ils ont travaillé jusqu'en décembre 2022. Ils ont soumis des propositions salariales qui n'ont jamais été prises en compte. Et puis, ils ont été surpris de la signature de la convention en octobre dernier. Donc, depuis décembre 2022,
jusqu'à
la
signature
de la convention, ils n'ont plus jamais été associés.
Bon, là,
il a même laissé entendre que des gens auraient créé de façon factice et artificiellement des syndicats pour les contourner, eux.
Justement, ça aussi, cette façon de faire, on peut quand même. Ouais. Cette façon de faire, on remarque ça souvent dans les corps professionnels, où des gens viennent de nulle part, viennent jouer les rôles que certains sont habilités à jouer, et qui s'assoient à la table de discussion, et puis commencent à signer des choses. Ça aussi, ce n'est pas bien. Si vous avez un interlocuteur principal sur un sujet, il faut qu'on discute pour trouver des solutions. Je ne peux pas dire que la plateforme revendicative du syndicat est une plateforme où, sur laquelle ils ne veulent pas faire des concessions. Mais tout le monde, si on est à la table de discussion, c'est pour que chacun puisse céder un peu afin qu'on puisse trouver un juste milieu. Mais je crois que si c'est cela, je crois quand même que les discussions doivent se poursuivre pour trouver une solution.
Non, ce que je voulais, c'est est-ce que, selon lui, les responsables des syndicats créés de toutes pièces, est-ce qu'ils reconnaissent les membres-là comme faisant partie de leur...
Du corps marin.
Du corps marin.
Monsieur Boudemain.
Je vous remercie pour cette question. Effectivement, le camarade qui a créé ce syndicat Brusque était un des participants, un membre d'un autre syndicat. Et je vous dis que avant que nous ne commencions ceci, nous avions eu des preuves. Parce que ce jour, tous ceux qui étaient là, nous, on les connaît. C'est ceux-là qui même empêchent ce coup de la marine marchande d'avoir effet.
Ce sont quand même vos camarades.
C'est des camarades marins. Ce n'est pas d'autres personnes. C'est des camarades marins. Je vais vous dire ceci. Le 7, avant qu'on ne clôture, le 7 décembre 2022, dans la salle, au cours de nos discussions et qu'il y avait des malentendus, j'ai fait comprendre à nos armateurs locaux, parce qu'il n'y avait pas un armateur en tant que tel. On n'a que des gens qui ont des petites flottes ici qui essaient de se débrouiller avec. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je leur ai dit que d'abord, celui qui fait signer cette convention aujourd'hui avec M. le ministre nous a toujours dit que c'est une structure, il faut la bâtir seulement après. Je leur ai dit non. Tu fais des erreurs. Il ne faut même pas essayer de bâtir. D'abord, avant de soulever un édifice, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la fondation qui doit être solide. Tu dois bien sceller avant de mettre les terres.
Donc, en somme, les syndicats créés, selon vous, dernièrement, qui ont signé la convention, quand même, vos camarades. Alors, est-ce qu'ils comprennent le bienfait pour un marin d'avoir un salaire conséquent?
C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose.
Ça a été toujours le cas dans beaucoup de domaines. Où il y a des gens prêts à jouer ce rôle-là. Vous voyez? Bon.
Ça nous rappellera toujours une phrase d'un certain hymne. Si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter. Ce fut une époque, ceux qui ont certain âge.
Dans tous les domaines, il y a des gens de comme ça, pour jouer.
Qui rament contre leur propre camp.
Oui, et ça veut dire qu'eux, ils se satisfont déjà des salaires dont parle le syndicat.
Mais entre nous, quelqu'un demande pour vous un salaire de 300 000 et que vous allez accepter un salaire de 75 000, et l'homme, tu vois un peu?
Non, le plus souvent, qu'est-ce qu'on remarque? Quand un corps se bat pour l'amélioration de ses conditions, il y a des apprentis sorciers, je ne sais pas pourquoi ils le font, je ne vais pas le dire ici, qui sont prêts à jouer, à mener, à ramer à contre-courant.
Et accepter moins 10 ans.
Mais quand le groupe le plus important tient le cap, et si jamais il y a de bons résultats, rassurez-vous, c'est les gens-là qui seront les premiers à aller goûter les fruits de la haute lutte, ouais, de cette haute lutte. Donc, vous voyez, ça a été toujours comme ça. Il y a des gens comme ça qui, ce n'est pas ce qu'il dit là, ce n'est pas surprenant.
Alors, ce ne sont plus des apprentis sorciers, ce sont de vrais sorciers qui rament contre leur propre camp pour la bonne humeur. Il est 11h40. Enchaînons avec ce sujet. Il y a une semaine, nous en parlions, à savoir le Togo, hein, notamment le Comité national olympique du Togo, qui va accueillir la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique pour un tournoi olympique. Eh bien, le dit tournoi a commencé depuis lundi dernier. Et là, Mati Djogbé, ton journal nous en parle.
Oui, en fait, il faut reconnaître que nous y sommes. Nous sommes justement dans le cadre des Jeux de zone 3 de l'ACNOA, une compétition qui ne s'est plus déroulée depuis plusieurs années, justement. Et donc, c'est les premiers Jeux de zone sous l'ère Mustapha Berav, qui est le président de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Depuis qu'il est président de cette institution, aucune zone n'a jamais organisé ces Jeux. Donc, la zone 3... Après, sur elle, le lead de le faire, c'est à Lomé que ça se déroule. Donc, depuis lundi, la compétition a démarré avec les réunions techniques. Donc, le Togo est engagé dans 3 disciplines, comme les autres pays qui y participent aussi. Donc, il faut dire qu'il y a 6 pays au total sur les 8 qui sont en compétition. Oui. Parce que le Libéria n'a pas pu effectuer le déplacement. Le Niger, pour des raisons de fermeture de frontières, n'a pas pu également faire le déplacement de Lomé. Donc, au niveau du volleyball, c'est une poule composée de 5 pays. Puisque la Côte d'Ivoire n'a pas engagé son équipe de volleyball. Donc, c'est 5 pays qui participent à cette compétition, dont le Togo. Donc, en entrée de jeu, le Togo a été battu par déjà ses adversaires de la même poule. Donc, aujourd'hui, le Togo a un autre match au volley, parce que vous savez que l'équipe de volleyball, l'équipe nationale féminine de volleyball, fait quand même beaucoup, beaucoup parler d'elle depuis un moment, sous la présidence du confrère Noël Tadegnon. Donc, que nous saluons, voilà, à qui nous souhaitons bonne chance pour ce soir, parce que le Togo a match et contre le Bénin, justement. Et je crois que après ce match-là, on saura exactement à quoi s'en tenir, puisque c'est un match qui va se disputer pour une qualification pour la troisième place.
En somme, pour le volleyball, match de classement. Le Togo n'est pas en bonne place.
Oui, bon, on peut le dire comme ça, mais au niveau du hand, le handball, le Togo s'est fait battre 2 fois déjà, donc la deuxième défaite c'était hier, le premier contre le Burkina Faso, donc la deuxième c'était hier, la deuxième défaite, et au niveau du hand, mais au niveau du basketball 3x3, le Togo a fait des exploits, le Togo s'est qualifié pour la demi-finale qui aura lieu aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire, et donc les poulains de la présidente, j'allais dire, Gina Dekambi, qui quand même ont fait bonne impression, parce que vraiment le terrain était bondé de monde hier pour suivre ces différentes compétitions. Donc le Togo a rendez-vous aujourd'hui au basketball.
En somme, c'est le basketball 3x3 qui peut offrir une éventualité de chance de médaille pour le Togo.
Tout comme l'équipe de volleyball, parce que le match d'aujourd'hui est décisif. Si le Togo bat par exemple le Bénin, il peut se qualifier pour le match qui va décider de la troisième place. Donc, on peut avoir des chances de médaille de bronze au niveau du volley. Et j'ai justement une chance de médaille d'or au niveau du basketball 3x3.
Merci. Nous continuons avec le sport, toujours avec la Fédération togolaise de danse sportive. Cette fédération qui prône le breaking, nouvelle discipline inscrite au programme des Jeux olympiques Paris 2024, et cette fédération vient d'être lauréate d'un appel à projet de la part du district autonome du Grand Lomé.
Oui, justement, c'est un appel à projet qui a été lancé depuis plusieurs mois. Donc la Fédération togolaise de danse sportive y a postulé et les résultats sont publiés depuis quelques semaines déjà. Donc la Fédération togolaise de danse sportive a soumis un projet qui s'appelle TRACE, territoire réuni par l'action citoyenne pour l'environnement via le sport. Et à travers ce projet, la fédération entend, via le break-in, sensibiliser sur la gestion des déchets dans 3 communes, le Golfe 1, le Golfe 7 et Aguanivé 1. c'est les trois communes ciblées par le projet. Et le projet va consister aussi justement d'une part à former les danseurs à devenir des ambassadeurs de l'environnement. Et ensuite, parce que quand on dit sport, aujourd'hui on est dans une dimension écologique, il faut être dans un environnement sain pour pouvoir faire du sport. Donc ce projet vise justement à sensibiliser les populations sur la bonne gestion des déchets à travers le sport. Et vous savez justement que le breaking mobilise davantage de jeunes aujourd'hui et de personnes qui sont quand même amoureux, passionnés de cette danse. Et dans les trois communes, le projet va consister à les réunir, à danser, mais aussi à leur parler des bonnes manières en ce qui concerne la gestion des déchets.
Félicitations pour cette jeune fédération qui fait déjà qui se fait parler d'elle. Je rappelle que cette fédération avait conduit une tournée nationale il n'y a pas longtemps.
Oui.
Mais l'homme, je crois, c'est savoir qu'il reste l'apothéose qui devrait se jouer à Lomé ici.
Oui, avant l'apothéose, on doit faire l'étape des plateaux. Et ensuite l'étape de la région maritime qu'on a mis sur Thiéviers avant la grande finale à Lomé. Donc je crois qu'entre le 20 et le 23 décembre, si tout va bien, on aura la grande finale, en attendant que la semaine prochaine la caravane puisse s'ébranler vers les plateaux avant de descendre sur la maritime pour espérer la grande finale autour du 21-22 décembre.
Merci à toi. Et là maintenant, la Fédération Togolaise de danse sportive qui pratique le breaking, je rappelle que le breaking est déjà inscrit au calendrier des Jeux Olympiques de Paris 2024. Si quelqu'un connaît le secrétaire général de la Fédération Togolaise de danse sportive, cette personne aura une carte d'invitation à la troisième mi-temps que nous allons animer juste après cette émission. Donc, la question, qui est le secrétaire général de la Fédération Togolaise de danse sportive? Si vous le connaissez, vous aurez une carte d'invitation à la troisième mi-temps que Michel Tchadia va nous offrir bientôt. Michel, tu es prêt?
Je suis prêt.
Il y aura donc au menu de la troisième mi-temps, il y aura sûrement
de tout. Il y aura Nirajou aussi.
Nirajou. Merci pour la bonne humeur. Cette bonne humeur maintenant qui nous amène à attaquer le gros morceau politique, à savoir ces pré-échauffements que nous observons dans différentes officines politiques, dès que les élections régionales et législatives ont été annoncées par le gouvernement, élections régionales et législatives annoncées par le gouvernement pour se tenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Revue de presse avec le confrère Gazelle Info paru aujourd'hui qui titre « Des scrutins vivement attendus » par la classe politique togolaise. Voilà les vainqueurs, Michel, tu écris, unir déjà dans les starting blocks, un quid de l'opposition. Autre journal, c'est Écho du Pays qui écrit, encore des tergiversations dans l'opposition et le changement qui titre lui, élections législatives et régionales annoncées, le CAR et l'Alliance Ensemble appel à une assise inclusive et demande la recomposition des institutions intervenant dans les processus électoraux, à savoir la CENI, la Commission électorale indépendante, la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC, ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, en somme, Le groupe Alliance Ensemble et le CAR demandent que ces institutions soient réformées avant que nous allions aux élections. Lesquelles élections sont déjà entre nos jambes, comme dirait une femme enceinte et l'homme?
Oui, je crois que le Conseil des ministres a fait publier un communiqué la dernière fois pour indiquer la date des élections au plus tard mars 2024, c'est-à-dire au premier trimestre de l'année prochaine. Donc autant dire que les partis politiques sont avertis, que au niveau des chapelles politiques, les échauffements ont commencé. Quand vous voyez par exemple au niveau du Parti Union pour la République, on a vu des séances de sensibilisation dans quelques quartiers déjà, dans certaines villes. Mais à ce niveau-là, au niveau de l'opposition, justement, on continue de contester le fichier électoral et aussi de rappeler justement que l'Assemblée nationale est en train de ou bien qu'il y a un vide au niveau de l'Assemblée nationale en ce mois.
Pas encore. À partir du 31 décembre.
Voilà, effectivement. Et qu'il rappelle justement que quand l'Assemblée nationale va tomber dans ce vide-là, ça voudra dire que le gouvernement est quand même illégitime. Donc c'est ce que
le
dit
l'opposition. Le gouvernement conduit par Mme Toméga-Dogo.
Effectivement.
Qui est bâti sur la majorité unie à l'Assemblée actuelle.
Voilà. Donc c'est ce que l'opposition relève. Et de l'autre côté, on se demande véritablement quelle est la stratégie de l'opposition pour pouvoir avoir le maximum de sièges ou bien avoir plusieurs sièges au Parlement lors des prochaines législatives, parce que pour l'instant, de ce que nous avons appris, il n'est pas question de boycotter ces élections-là. Des partis disent qu'ils ne vont plus répéter les erreurs de 2018, voilà, de 2018, et qu'ils voudront s'inscrire véritablement dans une logique de participation et de participation pour gagner, sauf qu'on est à 3 mois de l'échéance. On ne sent pas véritablement aujourd'hui sur la scène politique de l'opposition la stratégie, la façon dont on mobilise l'électorat. Et donc on en est là aujourd'hui, on observe le terrain et on se dit que peut-être après décembre, les choses vont véritablement bouger au niveau de tous les partis qui s'inscrivent dans le cadre d'une participation à ces prochaines élections.
Merci. Eh bien Michel, la DMP, l'Alliance Ensemble est le cas. L'ANC, depuis quelques semaines, formule des observations, des critiques, pour ne pas dire des exigences, notamment pour la DMP. À partir du 31 décembre, l'Assemblée nationale sera foreclose et la DMP demande que le chef de l'État initie un dialogue pour envisager l'après 31 décembre 2023 et la mise en chantier des élections à venir. L'Alliance Ensemble est le cas, donc il faut réformer les institutions comme la Cour constitutionnelle, la CENI, la HAC et la CNDH qui interviennent dans les élections. Alors pour l'ANC, les mêmes préoccupations, mais l'ANC qui demande même qu'on revoie le redécoupage électoral. Voilà les préoccupations propres aux différents tendants de l'opposition, mais du côté de unir. Comme Ouara l'écrit si bien, unir est déjà dans les starting blocks pour les élections.
Ah oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit.
C'est un constat.
Ceux qui ont de bons yeux et qui regardent voient ça. Donc, unir est constamment sur le terrain, qu'il travaille. Et ce que nous constatons, c'est que c'est les agitations que nous observons du côté de l'opposition. Quand on parle de réformer la Cour constitutionnelle, c'est vrai que aujourd'hui cette Cour a été incomplète depuis de longues années, ajoutée au fait qu'elle n'a plus son président. Mm-hmm. Il faut quand même un président avant d'aller donc à ces élections.
Parce que justement, c'est la Cour constitutionnelle qui va valider les candidats
et proclamer
aussi les résultats.
C'est important. Quand on me parle de la HAC, je ne sais pas qu'est-ce que la HAC a à voir dans l'organisation. Ouais,
c'est la HAC qui régule
les communications. Ceux qui sont actuellement, ils régulent mal. Ou bien, où est le problème? La CNDH, qu'est-ce que la CNDH a dans cette affaire? Moi, vous savez, les partis politiques, nous les respectons, nous respectons ceux qui animent ces partis politiques. Ils ont leur, comme on le dit, c'est impossible le terrain politique. Il y a des choses que nous ne pouvons pas reprocher à ces partis politiques-là. Par contre, ce que je voulais relever, c'est, j'ai entendu certains responsables des partis politiques le dire, et c'est ce qui retient moi mon attention, c'est le fait que ils n'ont pas la possibilité d'investir le terrain à certains endroits de notre pays. Ils n'ont pas la possibilité de mener leurs activités politiques sur le terrain parce que certains préfets trouveraient des arguties pour les en empêcher. Et là, à ce niveau, je pense que c'est là où les partis politiques doivent être unanimes. Les partis politiques de l'opposition qui sentent qu'ils ne sont pas à mesure, ils n'ont pas la possibilité parce qu'on les empêche. Ils peuvent lever la voix, ils peuvent saisir même les juridictions. C'est à ce niveau-là que je vois que les partis politiques de l'opposition, ils peuvent. C'est la loi leur autorise de. Si, à supposer que réellement, en mars, encore que certains même sont sceptiques que les élections aient lieu en mars, compte tenu d'un certain nombre de pesanteur et tout. Mais à supposer que ces élections auront lieu en mars, avant fin mars.
Au plus tard.
Mais et actuellement, les gens ne sont pas sûrs. On empêche certains, comme ils le disent, de travailler. Là, ça pose problème. Mm-hmm. Parce que comment on peut, à trois mois des élections, empêcher certains de descendre sur le terrain. Mm-hmm. Oui, c'est avec la campagne électorale, on va les laisser tranquille travailler.
Alors que dans le même temps, ils investissent le terrain.
Oui, c'est à ce niveau-là. Sinon, le reste, c'est des agitations qui n'ont pas de sens, à mon avis. Qu'est-ce que la CDH a assuré dans cette affaire?
Peut-être que ces partis relèvent que ces institutions...
Si c'est ça,
nous... leurs membres hors délai.
Ça, nous le disons tout le temps.
C'est le débat que nous animons ici depuis de nombreuses années.
Si c'est maintenant qu'ils se réveillent pour parler de ça, je suis désolé. Sinon, nous, on en parlait il y a de cela des années, avec les retraités partout, qui sont là, qui ne quittent jamais. Ce n'est pas normal pour une bonne République. Mais parler de CNDH, de quoi, bon, de la HAC, la loi dit que avant la nomination de celui, en tout cas des nouveaux membres, ceux qui sont en place évoluent et continuent de travailler. Et puis, quand on parle de vide constitutionnel, on trompe les étudiants, les élèves qui nous écoutent, parce que la loi même, la Constitution même, elle-même a pris des dispositions. Et nous avons expérimenté ça en 2012, où on devait avoir les législatives, qui n'ont pas eu lieu. Finalement, c'est en 2013
que les législatives. Sauf qu'à ce niveau-là, c'était il y avait des concertations entre le gouvernement et les acteurs politiques de l'opposition qui avaient convenu ensemble de glisser.
Ils sont les deux là, ils sont là encore.
Ils sont toujours là.
Et le problème, c'est à nous d'aller convoquer.
Justement, les deux bords sont là.
Ils sont là.
Ils ont encore des occasions de se voir.
Voilà.
C'est la CENAP qui est devenue le CPDC.
Voilà. Oui.
Je ne sais pas à qui appartient l'initiative.
Ça a eu de débattre de ça.
Ils se retrouvent soit au sein de la CENAP ou bien du CPDC pour s'entendre.
Ils ont des cadres de discussion. Il ne faut pas baratiner les gens, raconter. C'est à eux de voir où ils vont se retrouver. Alors nous parlons d'eux mais ils nous trompent après qu'ils ne sont pas vus. Donc c'est beaucoup plus ça. Sinon, qu'on nous épargne des débats inutiles.
Merci.
Voilà.
Et l'homme à Tichogbe, tu l'as dit tantôt que depuis déjà quelques mois, des partis, pas des membres de l'opposition, ont dit plus jamais de boycott
des élections.
Voilà. Sûrement que, ou bien probablement que derrière ces observations que ces partis de l'opposition continuent à réclamer, probablement qu'ils essaient d'investir eux aussi le terrain à leur façon.
Bon, peut-être, mais de toutes les façons, les activités politiques au niveau des partis ne se déroulent jamais sous le boisseau. Quand on est en politique, on fait tout pour communiquer. On ne fait pas d'action diplomatique. Donc, parce que c'est la conquête de l'électorat, et l'électorat a besoin de savoir si vous êtes dans telle zone, ce que ça donne. Si vous étiez chez moi, par exemple, dans ma zone, il faut que je sache depuis le mieux que vous êtes dans ma zone. Si je suis, par exemple, de Palimé, que vous avez fait Palimé, moi je suis à Lomé, je suis pas au courant, je ne sais pas si véritablement il y a des partis qui sont passés par là. Donc, en réalité, c'est pour dire que si les partis politiques de l'opposition investissaient le terrain, ça se saurait. Mais pour l'instant, ils continuent de revendiquer, ce qui est normal d'ailleurs, c'est ce qui anime la vie politique, poser des revendications, etc. Sauf que il faut voir si des revendications rentrent ou ont une prise directe avec la question des élections régionales et législatives, parce qu'il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais dit sur ce plateau, quand on avait fini le recensement dans la zone 1, c'est ça, c'est la zone qui nous concerne, on avait dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas fait recenser, et les gens attendaient toujours leur carte. Et on avait plaidé pour que la CENI puisse proroger la date de recensement. Ça n'a pas été fait. La CENI a dit qu'elle s'était tue dans un premier temps, et ensuite elle avait rassuré les uns les autres, et finalement on a fait un fichier électoral qui a été audité par, enfin qui a quand même connu l'expertise de l'Organisation internationale de la francophonie, et après on en est resté là. Donc on se dit que bon, la zone 1 n'a pas quand même réussi à recenser le maximum d'électeurs. Bon, maintenant, à l'époque, je disais justement sur ce plateau que l'opposition dénonçait, mais l'opposition n'étayait pas ses arguments de fait précis ou de chiffres précis. La politique, c'est aussi une question de stratégie. Vous êtes dans un parti politique, vous connaissez le nombre de vos militants. Qui et qui n'ont pas pu se faire recenser dans telle zone, c'est-à-dire les militants, vous en avez juste l'étendue du territoire. Mais ceux qui sont dans la zone 1, vous avez un chiffre précis. S'ils sont 100, et que sur les 100, vous constatez qu'il y a seulement 10 qui ont pu avoir une carte d'électeur, vous faites un mémo, vous publiez, vous dites que oui, ben voilà, notre parti politique a tel nombre de militants dans la zone 1, et sur la période, voilà, il y a tel nombre, compte tenu de l'influence sur les 100, il y a 10 qui ont eu le carte d'électeur, et il y a 90 qui n'ont pas le cadre d'électeur. Ça fausse le jeu. Ça nous déséquilibre parce que nous estimons que dans la zone 1, nous avons le maximum de militants et nous avons plus de chances de passer, de remporter un siège que dans telle zone, par exemple. Et à l'époque, tout le monde était unanime à dénoncer. Mais même le passager de la rue, le planton, excusez-moi, lui aussi nous dénonce. Mais sauf que la force du parti politique, c'est de pouvoir aller au-delà de la dénonciation pour venir avec des chiffres précis et prouver scientifiquement que véritablement on a un problème. Mais on en est resté à l'étape de dénonciation, aucun document, aucun papier. Et puis bon, voilà, on est aujourd'hui le 7 décembre 2023. Voilà, on est là à parler encore de ça.
Merci.
Mais la CENI recense les populations en âge de voter. On ne recense pas les militants.
Effectivement.
C'est les militants. Oui. C'est les populations.
Je suis d'accord. Non, moi je parle de.
Un parti politique ne peut pas faire une liste des militants comme ça que. Ça va être difficile. Moi, même si je suis militant de ce parti, je ne vais pas laisser mon nom apparaître
Michel, je ne dis pas qu'il faut laisser apparaître des noms. Vous savez, on est dans une démarche scientifique. Quand vous dénoncez ou quand vous venez, par exemple, par rapport à une proposition, étayez ça de chiffres précis. On ne donne pas la liste des gens. Non, vous dites que dans telle zone, on a un million. Voilà.
Nous sommes déjà assez ouvertement
effectivement.
En campagne électorale. Chacun y va avec les actes. Sauf que ça fait déjà plus d'une semaine que le gouvernement a annoncé ces élections pour se tenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2024, lequel le gouvernement avait demandé à la CENI de proposer le chronogramme au plus tôt. Comme l'homme le relève, nous sommes le 7 décembre aujourd'hui
2023.
Et la CENI reste toujours muette sur le chronogramme, alors que le premier trimestre, c'est déjà demain.
Ah oui, mais
c'est déjà demain.
Mais elle est là, non? Ils sont là. Ils sont, si vous allez vous cherchez le président de la CENI, vous allez le trouver. Mais c'est à eux de donner la date. Et c'est pourquoi je le disais tantôt, certains, en tout cas, observateurs se montrent un peu sceptiques par rapport à ce délai-là, parce qu'il serait trop court.
Oui.
J'ai eu à entendre certaines voix dans ce sens-là, que ça va être très compliqué
parce que pour les Togo
à faire. Mm-hmm. Donc ne soyez pas surpris que peut-être que bon, la Cour va nous surprendre, la CENI va nous surprendre en donnant une date dans les prochains jours.
Peut-être
sinon,
peut-être même avant la fin de la journée pas de cette émission.
Voilà.
Merci beaucoup, il est midi passé de 2 minutes. Nous marquons un arrêt, une pause, mais rassurez-vous, l'ami syndicaliste marin, pour démarrer avec nous, les confrères aussi, nous sommes disposés à recevoir vos questions, vos commentaires, juste le temps que Michel adresse le clin d'œil de Canal FM à nos partenaires.
93.5 Canal FM.
Nous avons parlé des gens de mer qui ont des réserves sur la grille salariale compte tenu de la convention collective de leur corps de métier, d'autres doléances aussi que M. Alpha Poudema a porté à ce plateau. Puis on a parlé de la COP 28 et puis on a également débattu des pré-échauffements dans les différents camps politiques. La parole est à vous à présent. Premier auditeur, bonjour. Allô? Allô, l'ami, bonjour.
Allô?
Oui.
Allô, bonjour, Sass.
Bonjour.
Oui, c'est Didier.
Ah, Didier.
Oui, Sass.
Oui.
Comment ça va?
Monsieur
Tadda, bonjour.
Didier. Bonjour.
Allô? Monsieur Tadda, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Oui, monsieur Tadda.
Oui, bonjour.
Moi, je pense que pour notre ami de les gens de la mer, là, moi, je vais le conseiller, je le dirige directement vers l'association de notre ami Tchanyao, et une association, l'association des journalistes pour la sécurité maritime, là. Ils pourraient faire du lobby pour qu'on puisse régler leurs problèmes, là. À moins que l'association même est un peu bizarre.
Okay.
Bon, secondo.
C'est noté, Didier.
Monsieur Tchanyao. Allô?
Oui.
Allô?
Allô?
Oui, allez-y. Comment pour les élections là, vous trouvez que c'est normal? J'ai l'impression que sur le social, moi je trouve mon ami Tchadja, sur la politique, il y a un virage à 100%, je ne reconnais plus mon ami Tchadja. Est-ce que vous trouvez que normal pour l'opposition ne demande pas le découpage? Quand on voit ce qui se passe dans le découpage, au vu des migrations ethniques, le pouvoir se sert pour faire les découpages. Lorsque nous voulons parler de ça, cela, on dit que nous faisons du tribalisme. Vous avez vu le découpage, qui c'est qui dans le Cloto, dans le Bamono, dans le un peu vers Anier, un peu vers Toko. Nous toujours connaissons les psychologues qui savent que c'est en fonction de cette migration, en fonction de l'orientation des votes que le pouvoir fait ces trucs-là. Donc, ce que moi je dis là, quel qu'en soit ce qui se passe là, quel qu'en soit le truc de l'opposition, moi j'encourage l'opposition à aller aux élections. Mm-hmm. Critiquer, demander la correction, mais faisons toujours, allons toujours. Mais c'est normal aussi, vous voyez, au moment où vous dites que l'opposition est inerte, le pouvoir empêche l'opposition de faire des meetings dans le quartier, à l'intérieur des villes. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est la triste, c'est la malhonnêteté. Donc, quand vous accusez l'opposition, sachez ce qui se passe sur le terrain, effectivement, M. Tchadja. Merci beaucoup.
Non, c'est pas Tchadja, c'est l'ensemble de l'équipe qui débat des sujets au jour le jour, s'il vous plaît. C'est noté, l'ami Didier. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Comme là, Johannes.
Allez-y.
Ben, que ça ne vous étonne pas qu'il y ait, au sein du, bon, le métier m'échappe un peu, votre invité là.
La marine marchande.
Voilà.
Les gens de mer, comme ils s'appellent.
Que ça ne vous étonne pas qu'à l'ancien, mais il y a ceux qui vont à contre-sens. Même dans la corporation de vous, les journalistes, la même chose se passe. Donc que ça ne vous étonne pas. S'il y a des gens, des journalistes qui réclament des choses pour que votre métier puisse mieux s'exercer, il y a également d'autres qui font le contraire et qui viennent sur les plateaux nous dire autre chose. Bon, ça, c'est la petite...
Ça, nous l'avons dit nous-mêmes, et de tels gens, on le trouve également dans votre famille, dans votre corps de métier, partout où il y a l'humain, il y a de tels individus, malheureusement. Allez-y maintenant.
Concernant, je ne comprends pas en quoi ça étonne Michel que l'opposition réclame ce cas de camp concernant la CNDH, la HAC et d'autres institutions. Si on n'est pas capable de savoir que ces institutions sont arrivées à terme de mandat depuis longtemps et que ces institutions doivent être légales avant qu'on ait aux élections, si on n'est pas capable de savoir l'importance d'une telle réclamation, je ne pense pas. C'est qu'on n'est pas compétent pour pouvoir parler de politique. Je suis désolé. Parce que la politique...
L'ami Johannes,
oui?
Nous mettons un point d'honneur à la courtoisie dans nos échanges, dans nos débats au Club de la Presse. Ce que vous dites, c'est du français que je comprends, ce n'est pas bien, s'il vous plaît.
La critique ne
Non, 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 on peut critiquer en étant élégant et courtois, s'il vous plaît. Quand vous dites que quand on n'est pas capable de, c'est qu'on est incompétent, non, ça vire à l'insulte et ce n'est pas bien pour vous-même qui dites ça. Parce que si vous commencez comme ça, les gens continueront à vous parler aussi dans de tels termes et ce n'est pas bon, s'il vous plaît. L'ami suivant, s'il vous plaît. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Niamavo.
Ben allez-y, monsieur Niamavo.
Oui. Salut le plateau.
Nous vous écoutons.
Oui, la politique, comme elle va au Togo, les gens arrosent.
S'il vous plaît, l'ami Niamavo, vous voulez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît?
Oui, il n'y a pas de souci.
Ok.
Donc, les gens arrosent ce que le pouvoir fait et éteint ce que l'opposition est en train de faire. Moi, je ne donne pas l'exemple de quelqu'un. Moi, j'étais dans un village, on a été invité à 4h du matin au conseil des sages de RPT à l'époque. Et juste, j'ai couvert certains jeunes qui mettaient les affiches de l'opposition. Et je les ai accompagnés, ils m'ont visé comme le cerveau des représentants de l'opposition. Et ça m'a coûté au village là-bas. Donc quand tu fais une activité, on te suit de près. Heureusement pour moi, je travaillais comme facilitateur qui était choisi par le Plan Togo. Et quand ils viennent à mes meetings, ils constatent que je ne parle pas de la politique. Ils sont surpris en 2005, quand on a dit que Fora a gagné. Moi aussi, j'ai cherché les feux pour danser avec eux. un retraité vient vers moi, qui est en bon, tu es avec nous, je n'ai pas compris, à 4h du matin, j'étais allé vers lui. Il ne se retrouvait pas. Et vous voyez, donc il n'y a pas d'activité de l'opposition. C'est un témoignage frais que je donne. Il n'y a pas d'activité. Quand tu veux suivre l'opposition, tes parents te disent, ta vie, elle vaut mieux que ce que tu veux faire. Laisse-les aller. Si tu ne trouves pas à manger pour nous, ça va. Est-ce que vous voyez? Donc, ne dites pas que l'opposition ne travaille pas à l'intérieur. L'activité de l'opposition à l'intérieur est éteinte par le parti au pouvoir. Juste en mettant aussi des lois. J'étais surpris en entendant Kagbara entre-temps dire que l'ANC critique les découpages, qu'il fait l'hétérocentrisme, tout ça là. Mais c'est un piège qu'il tend à l'opposition. Mais l'opposition ne peut pas se taire. Hein? Mais ce piège ne peut pas prendre l'opposition. C'est eux qui ont fait l'ethnocentrisme en découpant ça comme ça, pensant que l'opposition va tomber éternellement dans leur piège. Nous sommes là, l'opposition est prête, nous irons aux élections. Au moins, on va dégager les ailes marchandes, les partis ailes marchandes de unir à l'Assemblée nationale. Au moins ça.
Merci. Merci beaucoup, l'ami Nyamavo. Qui passe le témoin au suivant. Alors, bonjour.
Bonjour, Sas.
Oui.
Oui, ça disait qu'il revient, m'excuser.
Oui.
Bon, je remercie de tout cœur mon ami Nyamavo, que je le félicite et j'aimerais même le connaître. Quoi. C'est un bon citoyen. Je voulais demander aussi au public, là, vous trouvez que c'est normal dans un pays civilisé, là, dans les mêmes élections, dans une localité vers Agou, ou bien quelqu'un qui a 10 000, il a une voix, et l'opposition a 14 000 à une voix, les 4 000 là, vous faites en fait quoi? Dans les pays civilisés, vous savez ce qui se passe, les 4 là, on reporte sur la région. Dans un pays qui est civilisé, qui est équitable, où il y a les élections sont équitables, les 4 000 là qui sont perdus, on reporte sur la région, après on reporte sur la nation. C'est comme ça se passe. C'est pas parce que vous avez 10 000 voix à un député, l'autre à 14 000, et puis vous avez un député. Non. Les 4 000 qui sont restés doivent se reporter sur la région. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle équité. C'est ce que je voulais, l'attention que je voulais.
C'est ce qui se passe au Danemark. Ce que vous dites là, c'est pris en compte par le scrutin électoral en vigueur dans le dit pays. Merci Didier pour son retour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Mohamed.
Mohamed.
C'est bon, c'est tout.
Ok, nous vous écoutons.
Ah, je reviens sur un sujet que vous avez débattu le lundi à partir concernant Dr. Lafier.
L'hôpital, l'annexe de l'hôpital Dr. Lafier.
Non, l'échangeur même.
Ah, l'hôpital même.
Ouais. Oui.
Ok.
Quand tu viens là-bas, je suis allé là-bas. Quand tu viens là-bas, l'accueil même te fait guérir en même temps.
Pardon?
L'accueil.
L'accueil te guérit en même temps.
Oui.
Alors, c'est un témoignage que vous apportez.
Oui, je suis allé là-bas.
Vous-même, vous y avez été.
Oui.
Ok.
Vous me connaissez, je vous ai dit.
Oui.
Je souffre.
Oui, je.
Je suis allé là-bas. On m'a accueilli. On est venu au portail me prendre. Là où je vais.
Mm-hmm.
Après, on m'a transféré à l'hôpital de Bé.
Oui.
J'ai fait 3 semaines, je suis revenu.
Mm-hmm.
On m'a donné le rendez-vous le 15 janvier.
Merci pour ce témoignage, l'ami Mohamed. Bon rétablissement à vous, monsieur Mohamed. Le suivant, bonjour.
Oui, ça c'est.
Oui.
Mais je suis. Je puisse utiliser des mots qui sur lesquels vous mais au moins que je puisse terminer mon intervention.
C'est qui s'il vous plaît?
Que je puisse terminer.
C'est qui s'il vous plaît?
C'est Johannes.
Nous connaissons très bien. Vous êtes un auditeur fidèle. Vous appelez souvent. Je vous en sais gré. Tout ce que je vous demande, c'est d'être courtois quand vous parlez de tout le monde, notamment des confrères au studio. Nous sommes d'accord?
Nous sommes d'accord, il n'y a pas de
souci. Ok, allez-y. Mais si vous dérapez, je vous fais couper.
Vous pouvez me couper, il n'y a pas de souci.
Ok, allez-y.
J'aimerais dire, ajouter à ce que j'avais dit que, concernant les élections, je demande à l'opposition qu'il réclame. Tout ce qu'il réclame aussi bien concernant les institutions, mais qu'il ne se résigne pas et soit toujours résilient concernant les manifestations qu'il désire faire à l'intérieur du pays. Parce que ce n'est pas normal qu'on nous dise que, oui, le pouvoir empêche l'opposition de faire des manifestations à l'intérieur du pays. Donc, ça fait partie du jeu politique comme ça a été dit hier sur votre plateau par vos confrères. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas dans quel sens politique ça, on apprend ça, mais le pouvoir n'a pas ce droit-là d'empêcher l'opposition de faire des manifestations. Donc on dit que ça fait partie du jeu politique, mais c'est une manière d'abrutir le peuple. Merci, bonjour.
Merci, je vous en prie. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce.
Ah, c'est la grâce qui nous maintient au Togo. C'est l'évangéliste Chengon.
Oui, on a compris. Allez-y.
Bon, moi je voudrais m'intéresser des élections, hein. Des élections au Togo. Vous savez, en réalité, ce n'est pas les élections qui peuvent arranger les problèmes du pays, mais il le faut. Ça, c'est important. Mais l'opposition demande une assise avec le gouvernement. Maintenant, il refuse. Alors qu'il y a des irrégularités au niveau de fichier électoral, tous ces trucs-là. Mais il faut que le gouvernement aussi mette la balle à terre pour qu'ensemble avec l'opposition qui puisse prendre une assise et discuter de ce qui est normal, de qui est bien. Vous savez, le Togo nous appartient à nous tous et nous voulons le bien de cette nation. Hein? Je ne dis pas que vraiment que nos dirigeants ne font pas des chemins. Pour ce qui concerne les élections, il ne faut pas que après ces élections-là, les gens vont fuir, les gens vont quitter. Non, il faut que les choses soient claires, monsieur.
Merci beaucoup.
Vous voyez.
C'est bien.
Et je vais vous dire quelque chose, ça, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît.
Dites rapidement, s'il vous plaît.
Ouais, s'il vous plaît. Parce que vous avez donné des temps aux autres, c'est pas cinq ans. Vous savez, j'ai vu quelque chose à ORTB, la chaîne de Béninoise, où Talon, il y a Iboni, il y a Soglo, qui discutaient de la paix du Bénin, et c'était joli à voir. Mais pourquoi Fornia Singo aussi ne veut pas accepter, recevoir vraiment les Togolais, l'opposition, et ensemble ils vont discuter pour le bien de notre nation. J'interpelle le président et tous les préfets qui sont des zélés, et quand les gens viennent pour des réunions, il faut que Fornia Singo puisse les renvoyer de leur poste, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Michel Tobega, on reçoit le dernier auditeur. Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
S'il vous plaît, c'est Komi.
Komi, allez-y.
Je pense savoir que vous avez un syndicaliste.
Vous avez écouté l'émission?
Oui, oui, oui.
Alors, pourquoi vous dites que vous pensez savoir?
Ok, je lui pose la question sur la santé universelle, dont on nous parle d'un prélèvement de 10%. Quel signe, lui, comment lui l'en trouve de cette procédure? Par rapport au débat, on dit souvent chez nous, dans les yeux, comme on a résilié. Il s'est fait que la presse en a réclamé qu'on régularise nos institutions. Mais dans le débat, ça semble croire que ce n'est plus une urgence ou bien une priorité. Quand nous avons des institutions qui ne sont pas en bon état, ça ne fonctionne pas pour la vitalité de la nation. Donc je pense aussi que c'est une opportunité grandiose qu'on puisse renouveler la hâte sur le fait qu'on aura des journalistes, on aura une couverture médiatique, qu'on puisse renouveler la CNDH, parce que la question du droit de l'homme va se poser. On se connaît dans ce pays. Simple élection, on tape les gens, on frappe de maison en maison. Et pour la question des réunions, je veux juste rappeler que c'est à cause de l'opposition, le ministre d'alors a interdit les réunions dans les établissements scolaires. Le pouvoir en question, même dans les funérailles, il vient faire de la propagande dans les chefferies, les fêtes traditionnelles. Ils viennent faire leur sensibilisation. Mais cette réunion dans les maisons, ils demandent aux policiers, aux commissariats, aux préfets d'interdire. Et ils le font. Ils le font.
Merci, on dénonce ça. Il est 12h23. Souffrez que je vous arrête. Obligation de temps pour que nous fassions le tour de clôture de l'émission. L'ami pour demain. L'ami Komi vous demande quelle est la position de votre syndicat sur l'alliance LAMU, la mutuelle universelle qui va commencer à partir du 1er janvier.
Bon, au fait, nous n'avions reçu aucune information par rapport à cela.
Si, nous en parlons depuis. Le gouvernement a décidé qu'à partir du 1er janvier, oui, tout le monde devrait aller à l'assurance maladie universelle.
Oui, puisque nous,
Justement, c'est ce à quoi nous nous adressons aujourd'hui par rapport à cette convention. Nous ne sommes pas des sociétés sur place. Moi, personnellement, je parle de ma personne et d'autres personnes aussi, parce que je parlais de long cours tout à l'heure.
C'est-à-dire, vous parcourez les océans du globe terrestre.
Et je ne suis jamais sur place au pays. Et moi, je signe des contrats où tout m'est payé. Donc, c'est pour cela que nous disions que normalement, notre grille salariale d'aujourd'hui qui se trouve dans cette convention doit être vue à la hausse pour permettre à celui-là qui peut-être signera un contrat avec un armateur puisse avoir de quoi pouvoir d'abord payer
se, sa se prendre en charge partout où il y aurait un souci de maladie. Merci à vous, monsieur Poudéman. Bonne chance dans vos discussions et négociations. Et Michel Tadja et Lomé Tichogwe, une minute à chacun pour clore cette émission.
Oui, ça, je pense que c'est M. Johannes, et puis avant lui, il y a un autre aussi qui m'a...
Didier, qui m'a c'est interpellé. Les deux qui t'ont personnellement un peu interpellé.
Oui, mais à Johannes, je ne vais pas répondre parce que c'est de lui faire plaisir si je le réponds, parce que il n'a pas d'injonction à me donner. Il ne m'a pas invité ici. Je viens chaque fois, quand je suis invité ici, à donner mon point de vue sur l'actualité sous-politique. Je n'ai pas besoin de Johannes pour venir ici. Et donc, je n'ai pas à lui répondre. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde sait que les élections à venir sont des élections très importantes. Pour ceux qui ont connu un peu ce qui s'est passé en 2018, ils vont comprendre que c'est des élections d'enjeu de tous les partis politiques installés, en tout cas sur l'échiquier national. C'est des élections d'enjeu pour tous ces partis politiques-là et pour la population. Et donc, aujourd'hui, nous l'avons dit, nous n'avons pas dit qu'on ne veut pas le renouvellement des institutions de la République. Nous ne l'avons pas dit. Nous disons que quel lien, en tout cas le renouvellement de certaines institutions, a directement avec l'élection, les élections à venir. C'est la question que moi je me suis posée. Et donc, si on me parlait de l'empêchement des partis politiques de l'opposition à travailler convenablement sur le terrain, je peux me prononcer. Parce que je trouve que ce n'est pas normal. Et j'ai dit qu'il y a les juridictions. Si un préfet interdit par des arguties, par des moyens, des arguments qui ne tiennent pas debout, vous pouvez le traîner à la justice et qu'il vraiment vienne répondre. Parce qu'il ne faut pas souvent dire que non, c'est le pouvoir. Non. S'il y a un préfet zélé, qu'il vienne répondre. Parce qu'on ne peut pas empêcher les partis politiques. Je l'ai dit, mais je suis surpris. Que les gens disent, me reprochent que, surtout le Didier, me reproche que j'ai dit que, bon, le renouvellement des institutions, ça, toi et moi, nous le disons chaque jeudi ici, et avant moi, vous débattez avec d'autres confrères. On ne dit pas, on a écrit pendant de longues années pour dire que ce n'est pas normal que des échanges soient comme ça. Mais que c'est aujourd'hui, oui, certains se réveillent pour dire qu'ils réclament. Mais ça, c'est pourquoi je trouve ça un peu bizarre.
Avis. On a l'impression que c'est maintenant que certaines personnes découvrent que les institutions sont forecloses. On peut le leur tolérer aussi. Et l'homme ?
Bon, moi je crois quand même que par rapport aux auditeurs, il va falloir qu'ils puissent, chaque fois je le dis, nous n'avons pas la science infuse, on n'est pas détenteur du savoir de la vérité absolue. C'est de la confrontation de regards qui jaillit la lumière. Mais on n'a pas, justement, quand on vient, si on donne des leçons à personne, il ne faudrait pas que les gens appellent pour placer des mots qui sont déplacés ou pour dire des choses qui heurtent véritablement nous en tant que journalistes, en tant que confrères. Et je crois que sur ce plateau, il n'a jamais été question de dire que le fait d'interdire un meeting politique, une activité politique dans une zone fait partie du jeu politique. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Mais il y a quelqu'un qui a appelé, qui a dit que nous, on l'a dit.
Mais on nous prête ça tout le temps.
Voilà, donc je crois qu'avant d'appeler, il faut véritablement
suivre.
Si vous voulez, prenez un bic, une feuille, écrivez quoi. Franchement, il faut que véritablement
merci,
on cesse ça.
Merci beaucoup. Nous sommes, le journaliste, c'est comme le pédagogue.
Nous ferons l'effort de trouver le mot juste pour parler de l'actualité au pays au jour le jour. Et nous conseillons vivement à nos amis auditeurs également de faire leur la courtoisie. On peut être très dur avec quelqu'un, mais en usant d'un langage de courtoisie.
Nous aussi, nous savons insulter. Il faut leur dire
vous
ça.
Vous savez, la
nous savons comment on insulte.
C'est notre première grandeur. La politesse, la courtoisie, c'est la première grandeur. Et nous montrons que nous venons d'une maison où nous avons été bien éduqués quand nous parlons avec courtoisie aux autres et des autres. C'est fini pour aujourd'hui. Le club de la presse retourne demain vendredi. Et je sais que nous serons encore très nombreux à écouter et à co-animer après.